Et Pâques nous rappelle que la résurrection de Jésus, c'est le point de départ du véritable repos de Dieu. C'est ce que j'ai mis dans le sixième point. Il y a un repos éternel. Je voudrais développer cette notion parce que je trouve qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas bien perçue. Voilà. Jésus, on l'a dit, a été déclaré fils de Dieu. Il est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Et c'est lui-même qui a affirmé durant son passage sur terre les versets suivants. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous un poids, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. » Et vous voyez, dans ce passage, deux fois dans ces versets, on trouve cette notion de repos. « Je vous donnerai du repos. » Et ce repos, Jésus nous l'a acquis parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est, le jour du sabbat, il s'est reposé. Il était dans la tombe, il aurait pu sortir avant, Dieu aurait pu le ressusciter immédiatement, mais il a attendu trois jours parce qu'il y avait le sabbat et le sabbat était important pour Dieu. Et je vais revenir sur cette notion. Et dans la Bible, il y a un mot pour désigner ce repos, c'est le sabbat. Je voudrais revenir sur ce sabbat. Il a été abordé par Nasser l'année dernière, tu nous en avais parlé. Je vais revenir là-dessus parce que je pense que ça fait du bien aussi de se rappeler un certain nombre de choses. Souvent dans la tradition juive, le sabbat est désigné par un commandement. D'accord ? Et donc, il a été déplacé par les chrétiens au dimanche, par assimilation. Les juifs, c'était le samedi. Les chrétiens l'ont déplacé au dimanche. Et j'aimerais vous suggérer que le sabbat, c'est bien plus qu'une tradition juive. Et on va essayer de voir ensemble c'est quoi le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le sabbat et le repos. Jésus, par qui il est, a lui-même incarné le sabbat. Dans son exemple, on le voit par exemple, il était hyper sollicité, les foules le pressaient sans arrêt. Sans arrêt, on venait le chercher, il fallait guérir des malades, il fallait aller à droite, à gauche. Il était hyper sollicité. Si vous avez des agendas pleins, Jésus, il connaît ça. Il n'avait pas d'agenda électronique, mais il était hyper sollicité. Pourtant, quand on le voit, il n'était jamais pressé. La preuve, c'est que pour aller ressusciter Lazare, il a pris tout son temps. Et Jésus savait se reposer. On le voit dès le début de l'évangile de Marc, on l'étudiera très prochainement. Il se lève très tôt le matin et il sort pour aller dans un lieu désert. Et là, tous le cherchent. « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi. Arrête de perdre du temps à t'arrêter pour rien. » Je paraphrase les disciples, bien entendu. Vous l'avez bien compris. Voilà. Et puis, plus tard, Jésus envoie ses disciples en mission. Matthieu 10, le grand discours sur la mission. Et quand ils reviennent, ils sont tout excités. « Oh, on a fait des tas de trucs et tout, on a vu des tas de trucs. » Jésus leur dit « Top, top, venez à l'écart. Venez vous reposer. » C'est le même mot qui est utilisé en grec. Il est utilisé 4-5 fois dans le Nouveau Testament. Pas beaucoup. Mais là, quand Jésus les prend à l'écart, « Venez vous reposer un peu. » C'est exactement le même mot. Nous vivons une période aujourd'hui qui est particulièrement agitée, où il n'y a pas de repos. Aux États-Unis, les magasins sont ouverts 24 heures sur 24. D'accord ? Et nous-mêmes, en tant qu'Église, on est particulièrement éprouvés parce que beaucoup de gens sont agités. Et j'ai pensé qu'il pourrait être utile de réfléchir en tant qu'Église à cette notion de repos. Et qui d'entre nous, je pose la question, qui d'entre nous ce matin aimerait repartir avec le secret du ressourcement ? Levez la main. Qui ? Qui voudrait repartir avec le secret du ressourcement ? Bon, il y en a quelques-uns quand même qui sont concernés. Alors, je vais essayer de vous donner des pistes, d'accord ? Vous êtes prêts ? Enfin, je vais essayer. La parole de Dieu qui va essayer de nous donner des pistes. Alors, on va essayer ce matin d'affiner notre compréhension de ce que Dieu voulait dire par sabbat. C'est-à-dire approfondir, élargir cette compréhension selon les Écritures, pas selon ce qu'on a dans la tête, selon ce dont on a entendu parler, notre impression, mais on va voir qu'est-ce que nous disent les Écritures, que nous disent les Écritures sur le sabbat. Et très souvent, on assimile le sabbat à un commandement ou à un acte religieux. Je fais mon sabbat, voilà. Eh bien, je voudrais vous faire toucher du doigt que le sabbat, c'est beaucoup plus que ça. Et que c'est, je vais vous dévoiler un peu presque la fin, c'est un avant-goût d'éternité. Le sabbat sert à éveiller nos papilles pour la vie éternelle. Le sabbat nous sert à nous préparer pour la vie éternelle. Et vous allez voir, si vous décidez de vous engager dans ce qu'on pourrait appeler une véritable discipline spirituelle, pas un acte religieux, hein, mais une discipline spirituelle, tout ce qu'il est possible de retirer de la pratique du sabbat. Alors, le plan que je vais suivre, il est très simple. On va voir qu'est-ce que dit la parole de Dieu du sabbat au travers de 7 textes les plus importants. C'est les textes qui vont parler, c'est pas moi. Ensuite, on va essayer d'en tirer quelques principes pour nous. Et puis, je vais vous donner 2-3 pistes pratiques pour justement pratiquer ça, si vous voulez l'intégrer vraiment dans votre vie. Ça va être quelque chose de très concret, mais ça sera basé sur les Écritures. Alors moi, en tant que jeune chrétien, mon expérience du sabbat, ben, c'était pas grand-chose. C'était juste, ouais, d'accord, le sabbat, quoi. C'est les 10 commandements. Je les avais appris à l'époque en russe, il y a très longtemps. Puis ensuite, je les ai appris en français. Bon, blablabla, les 10 commandements, tu te reposeras le jour du sabbat. Oui, ben, c'est pour les juifs, etc. Donc, quand j'étais jeune, j'étais à fond. Et j'étais tellement à fond qu'à 37 ans, ça m'a coûté une chirurgie du cœur avec 6 pontages coronariens. Donc, j'ai dû quand même réfléchir à partir de ce moment-là. Je vais fêter mon 25e anniversaire d'opération, hein. 4 heures sur une table, 2 chirurgiens, le cœur arrêté complètement, une machine extracorporelle pendant 4 heures qui fait circuler le sang, c'est quand même pas rien. Voilà, plus 4 mois de rééducation. Donc, je sais de quoi je vous parle. Hein. Donc, si vous êtes agité, si vous êtes stressé, je sais de quoi je parle. Même si je ne peux pas comprendre. Voilà. Alors, je vous ai dit, on va essayer de cerner le sabbat en 7 point très particulier. Et finalement, le secret du ressourcement, ça va être de comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers du sabbat. Alors, le premier texte que je voulais voir, c'est tout simplement ce texte qui est dans le livre de l'Exode, c'est l'un des 10 commandements. Alors, vous voyez, là, vous avez le commandement sur le sabbat. Sachez que sur les 10 commandements, c'est le commandement le plus long des 10. On connaît tous « tu ne tueras point », ça tient en quelques mots. Le sabbat, ça tient tout ça. D'accord ? Et donc, ça c'est pour les théologiens juifs, ils ont analysé ce texte du sabbat. D'accord ? C'est un jour consacré à l'Éternel, vous voyez, c'est répété plusieurs fois. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Donc le sabbat, c'est un jour consacré à l'Éternel. Et les Juifs orthodoxes du Talmud à l'époque avaient défini tout un tas d'applications. Hein ? Les Juifs avaient commenté sur le texte, hein, et d'ailleurs aujourd'hui encore, il existe ce livre de commentaires qu'on appelle la Mishnah, qui est en fait, c'est comme la loi française. Hein. Vous avez les lois et puis vous avez les décrets d'application. Donc les Juifs avaient fait des décrets d'application. Et notamment, ils avaient défini tout un tas de choses sur le sabbat. Il y avait 39 interdictions qui étaient déclinées en sous-interdictions. Donc il était interdit, par exemple, de travailler, de labourer, de récolter, de coudre, d'assembler des choses, de faire du feu. Et ensuite, on a fait sur ces 39 interdictions encore des commentaires pour définir des déclinaisons. On n'avait pas le droit de conduire une voiture, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture du temps des 10 commandements. Et par exemple, ça arrive, pour ceux qui sont allés en Israël, vous arrivez en Israël le jour du sabbat, vous allez dans un hôpital qui a 40 étages, vous voulez prendre l'ascenseur, il vous faut une demi-heure pour aller jusqu'à la chambre. Pourquoi ? Parce que les ascenseurs, à partir du soir, du vendredi jusqu'au samedi soir, se mettent à fonctionner en mode automatique, puisque appuyer sur le bouton de l'ascenseur crée un courant électrique. Le courant électrique est assimilé à un travail. Vous voyez, quand on décline, quand on coupe les cheveux en 4, c'est un courant électrique. Donc, pour éviter de créer un travail le jour du sabbat, et les ascenseurs fonctionnent automatiquement. Vous montez au rez-de-chaussée, ils s'arrêtent au premier, les portes s'ouvrent, il s'arrête au second, les portes s'ouvrent, au bout d'un moment, vous en avez marre, parce que vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton rapide, et vous faites les 40 étages comme ça. Ça, c'est pour la petite anecdote. Vous voyez jusqu'où on peut aller quand on est légaliste, quand on décline le sabbat de manière complètement légaliste. Et c'est ce que, du temps de Jésus, c'est ce que faisaient les pharisiens. Et Jésus va leur reprocher, il leur dit, mais vous, moi je guéris quelqu'un du sabbat qui est malade depuis longtemps, et vous, quand il y a un bœuf qui tombe dans votre puits, vous le sortez. Il y a eu une grosse controverse entre Jésus et les pharisiens sur la théologie du sabbat. Donc vous voyez que la théologie du sabbat, eh bien, ça part des 10 commandements. Alors il y a un deuxième texte ensuite, qui est bien connu, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la controverse, Jésus qui est critiqué sur son application du sabbat, et Jésus va mettre les choses en point en disant, attention, le sabbat c'est pour l'homme, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire c'est pas un truc légaliste que vous devez observer, comprenez le sens du sabbat, il a été donné pour vous, pour votre bienfait, il y a une liberté dans l'accomplissement du sabbat, et Jésus l'a parfaitement accompli, parce que Jésus savait se reposer au bon moment pour être disponible, et également Jésus, on l'a vu tout à l'heure, il l'a accompli en restant dans la tombe le samedi avant de ressusciter, parce que s'il était ressuscité, les Juifs auraient en plus critiqué le fait que le sabbat, il aurait pu dire rouler la pierre, c'est un travail, enfin... Voilà la difficulté. Donc retenez que le sabbat, c'est fait pour l'homme, c'est un cadeau que Dieu nous donne. On va voir comment l'appliquer. Alors revenons un petit peu, c'est le troisième texte que je voudrais partager ce matin avec vous. Revenons un petit peu à l'origine. Parce que on revient à la création, on est dans le livre de la Genèse, et le septième jour, Dieu crée la terre, les cieux et la terre, en six jours, et le septième jour... Il se repose et il bénit le septième jour. Retenez bien, Dieu se repose et il le bénit, il en fait un jour à part. C'est Dieu qui fait ça. Tout ce que Dieu fait est parfait. Donc on peut tout imiter ce que Dieu fait. Donc il se repose, il le bénit, il en fait un jour saint. D'accord ? Le mot bénir, c'est le mot barak en hébreu. D'accord ? Donc, le sabbat est bien antérieur aux 10 commandements, finalement, parce que c'est quelque chose qui est à l'origine, que Dieu nous montre, c'est comme un patrimoine de l'humanité, finalement. Il n'y avait pas de peuple juif encore, il n'y avait même pas de création de l'être humain ici. Enfin, si, l'être humain était juste créé, pardon, puisqu'il l'a créé le sixième jour. Voilà, donc ça, c'est le texte fondateur. Et puis, on va aller un petit peu plus loin parce que ça va nous éclairer. On va aller dans le Lévitique. Donc, dans le Lévitique, voilà ce qu'il est dit, dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome reprend l'Exode 20, les 10 commandements, mais va nous donner une information supplémentaire. Il va nous donner une information supplémentaire parce que, regardez, il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le sabbat. Donc, tu te souviendras. Vous voyez, comme tout à l'heure, il y a un souvenir. Tu te souviendras de ce que tu as été libéré. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une notion de souvenir et c'était une notion d'esclavage. Alors, c'était quoi cet esclavage ? C'était quoi cet esclavage en Égypte ? C'est un esclavage où les Juifs travaillaient 7 jours sur 7. Ils ne se reposaient jamais. Ils faisaient des briques. Ils construisaient des pyramides. Ils faisaient des briques. Ils travaillaient 7 sur 7. Il n'y avait pas de temps de repos. Donc le sabbat est donné ici par opposition à la suractivité. Et c'est très important parce qu'on va plus loin. Vous voyez, c'est exactement le même texte que dans les 10 commandements, mais on va plus loin. Dieu donne le sens du sabbat. Le sabbat sert à s'opposer à la suractivité. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves du travail. Il y a des gens qui travaillent tellement qu'ils font des burn-out. Vous n'êtes peut-être pas concernés, mais beaucoup de gens ont fait des burn-out au travail. Je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux qui a fait un burn-out au travail. Pourquoi ? Parce que sans arrêt, on pousse, et on ne demande pas aux gens. On ne donne pas aux gens la possibilité de s'arrêter. Pourtant, il y a des lois, mais regardez dans le milieu médical, par exemple, les internes font 24 heures de garde. Avant, ils ne se reposaient même pas. Donc, ils pouvaient prendre une garde dimanche matin, par exemple, à 8 heures, jusqu'au lundi matin, 8 heures. Puis à 8h30, ils prenaient le service normal de la journée. Maintenant, on a instauré des repos de garde, mais pendant très longtemps, les internes en médecine ne se reposaient pas. Donc au bout d'un moment, on fait des erreurs, etc. Vous voyez ? Donc cet esclavage de tout le temps travailler, Dieu met en garde le peuple d'Israël en disant « Ne fais pas comme quand tu étais en Égypte, tu es un peuple libre maintenant, hein, on a la notion de liberté, nous on est libérés du péché, eux ils étaient libérés du pharaon, et il leur dit « Tu te souviendras qu'en Égypte tu travaillais tout le temps, donc pense bien à te reposer, d'ailleurs, hein, je te rappelle que Dieu, lui, quand il a créé, il s'est reposé, hein, et moi je vous rappelle que Jésus, quand il est ressuscité, il s'est reposé le samedi. » Donc vous voyez, il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc le sens du sabbat, il est là. Et puis, il y a ce texte de l'Ecclésiaste qui nous rappelle que l'être humain a été créé pour des rythmes. Il y a des rythmes dans la vie. De la même façon que la nature, l'observation de la nature que Dieu a créée, nous donne des notions de rythme. Il y a le printemps, là, en ce moment, on a les bourgeons qui sortent, les feuilles, etc. Ensuite, les feuilles vont grandir, les fruits vont se former, on va cueillir les fruits. Les feuilles vont jaunir, elles vont tomber, ça va être une espèce de mort. L'automne, c'est la mort, l'hiver, c'est mort. Mais en fait, dans la mort, il y a des germes de résurrection, puisque les bourgeons sont déjà là. Donc vous voyez, la nature nous enseigne qu'il y a des notions de rythme. Et dans notre cas, hein, en tant que chrétien, c'est important de comprendre qu'il y a des rythmes. Et l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Et Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. On a, quelque part, on est porteur de l'éternité. C'est ce que je vous disais au début. La résurrection, enfin, de Jésus est un prélude à l'éternité que nous allons vivre avec lui. Donc, c'est une préparation. Et en quelque sorte, Dieu nous demande quoi ? Il nous demande de comprendre ce que veut dire le repos et le sabbat ici-bas, parce que dans l'éternité avec Jésus, on sera dans un temps de repos. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'habituer à un temps de repos si on ne le pratique pas ici-bas ? Donc cette notion de rythme qui nous montre que l'être humain est limité. Vous voyez, Dieu, il pourrait travailler 24 heures sur 24, parce qu'il est illimité. Et pourtant, Dieu, dans la création, nous donne un exemple, il se repose, parce qu'il a besoin de se reposer, Dieu, entre nous. Non, il n'a pas besoin de ça. Vous êtes d'accord ? Qui n'est pas d'accord ? Tout le monde est d'accord. Dieu n'avait pas besoin de se reposer, pourtant il s'est reposé. Donc il veut nous laisser un exemple. Jésus, quand il lave les pieds, il laisse un exemple. Il le dit à ses disciples, je vous ai laissé un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. On pourrait dire ça de Dieu, par rapport à son repos. Je vous ai laissé un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et puis, la notion de limite qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, ça nous rend humbles, ça nous montre qu'on n'est pas Dieu. Ça nous nettoie de notre orgueil, parce qu'avec notre orgueil, on pourrait se dire, mais moi, je suis invincible, vous savez, des chefs d'entreprise, je suis en pleine forme et tout, tout va bien, je fais mes examens, mon bilan cardiaque, tout va bien, tout va bien, et puis 2 ans après, boum, vous voyez. Donc cette notion de rythme nous donne beaucoup d'humilité de comprendre qu'on est des gens limité, et que quelque part, on a ce souci d'éternité pour laquelle il faut se préparer. Et c'est justement ça dont je voudrais parler. Et c'est ce que le prophète Ésaïe va dire dans le chapitre 58. Je lis une partie de ce chapitre, je vous encourage à lire l'ensemble d'Ésaïe 58. Si le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délices, si ce saint jour de l'Éternel tu le tiens en estime et si tu me respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires, de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. En fait, pour trouver la vraie joie en l'Éternel, il faut renoncer à tout ce qu'on vient de lire, tout ce que Jérémie dit. Et là, Ésaïe s'adresse à des Juifs, hein, on est en 700 avant Jésus-Christ, donc 300 ans après David. C'est des Juifs qui avaient dénaturé le sabbat. Ils en avaient fait une contrainte, ils avaient une vie spirituelle déformée, ils avaient une religion négative qui était faite de contraintes, de déni, il n'y avait pas beaucoup de joie, pas beaucoup de fêtes, c'était des obligations permanentes. Peut-être votre vie chrétienne, aujourd'hui, elle est comme ça, elle est faite de plein de contraintes. Je dois faire ci, je dois faire ça, ah, je dois venir au culte, je suis fatigué, mais je ne peux pas. Vous voyez, si votre vie chrétienne, elle est faite de ça, vous n'avez pas la joie en l'Éternel. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que Dieu voulait dire par sabbat. Et donc ces Juifs du temps d'Ésaïe, ils avaient raté l'intention première de Dieu concernant le sabbat. Ils en avaient fait un acte légaliste, ils en avaient fait un fardeau. Ils avaient fait du sabbat quelque chose sans joie, qui était très loin de ce que Dieu avait comme intention pour eux. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui interviennent le jour du sabbat. Vous lirez au début du chapitre 58 d'Ésaïe, hein, c'était associé au jeûne, hein, c'était associé à beaucoup d'actes de bienfaisance. Et il y a des bénédictions qui sont associées au sabbat. Hein. Le mot « délice » ici, la joie en l'éternel, les délices, c'est quelque chose de très fort, et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, que ça soit des temps de délices, que le repos de l'éternel soit un temps de délices. Et aujourd'hui, on célèbre en quelque sorte la résurrection. Je vous invite à faire de ce jour aujourd'hui un jour de délices, un jour de repos, un jour de joie. Un jour, vous allez arrêter vos soucis, vous allez les remettre à demain. Il y a d'ailleurs le lundi de Pâques, c'est bien ça dans la traduction française. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait le lundi de Pâques. Quelqu'un a une explication sur le lundi de Pâques, non? Ou alors c'est peut-être la mise en pratique de la fameuse blague de Pierre Dac, hein, qui disait « Le jour où on ne travaillera pas le lendemain des jours de repos, on aura fait un grand progrès dans notre civilisation. » Voilà. Donc, et on arrive au dernier point, eh bien, c'est l'application néo-testamentaire du sabbat. Hein, et tout à l'heure, quelqu'un a lu le texte d'Hébreux. Hein, c'est que le sabbat préfigure, comme beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, préfigure les choses à venir. L'ombre, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et c'est ce qui est dit dans ce texte. Si Josué avait assuré le repos aux Israélites, le repos, c'était censé l'entrée dans la terre promise. Mais l'entrée dans la terre promise, il y avait des combats, et puis sans arrêt, il fallait combattre. Donc si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas d'un autre jour, c'est donc qu'il y a un repos qui reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour. Regardez, on retrouve l'idée originale de Dieu. Hein, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui s'adresse à des Hébreux qui connaissaient parfaitement les 10 commandements, l'Ancien Testament, les textes de l'Ecclésiaste qu'on a lu tout à l'heure, il existe un repos semblable à Dieu le septième jour, car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Voilà, il y a vraiment une exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux à rentrer dans ce repos symbolique que Dieu nous a préparé pour nous. Et vous voyez, les Juifs de l'époque d'Ésaïe, hein, qui suivaient le Talmud, le sabbat dans la tradition juive était assimilé à l'attente d'une reine ou d'une épouse. Je répète, le sabbat était assimilé à l'attente d'une reine et d'une épouse. Vous voyez, ils avaient déjà, les Juifs, cette attente de quelqu'un qui doit venir. Et c'est quoi le mot « épouse » dans le Nouveau Testament? Ça représente quoi? Ben oui, ça représente l'Église. Il y a cette idée d'attente, l'Église qui attend son époux, qui attend que Jésus vienne nous chercher, qui nous emmène là-haut où on aura ce repos éternel. Voilà, ce sabbat donc qui est accompli totalement en Jésus-Christ. Jésus, par sa mort, par sa résurrection, sa place à la droite de Dieu, eh bien, accomplit totalement ce sabbat qui ne sera achevé que lorsque nous serons face à face, lorsque nous serons dans le vrai repos avec lui. Alors si on résume rapidement, quelles applications, hein? Donc le sabbat, on a vu, c'est un commandement de Dieu, pardon. Première chose, c'est un commandement de Dieu. Et Jésus nous dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Hein? Ce n'est pas un commandement qui est contraint, c'est un commandement qui nous est donné. Ces commandements ne sont pas pénibles, dit l'apôtre Jean. Donc le fait de l'appliquer, de le respecter, eh bien c'est quelque chose de bénéfique. Le sabbat, c'est une imitation de ce que Dieu a fait, c'est le couronnement de la création. Donc on ne fait qu'imiter Jésus. Troisième application, c'est un cadeau qui a été donné à Israël lorsqu'il a sorti de l'esclavage. Et par assimilation, c'est un cadeau qui nous est donné quand on est sorti de l'esclavage du péché. On n'a pas à retomber dans l'esclavage de l'hyper-travail, de l'hyper-agitation. Mais au contraire, savoir avoir des breaks, ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux. Parce que la Bible, notamment les Proverbes, parle de la paresse. La paresse n'est pas bonne. Donc on ne nous demande pas d'être paresseux, mais on ne nous demande pas d'être hyper agité, hyper actif. Parce que le sabbat, c'est un cadeau qui a été donné à Israël quand il est sorti d'esclavage et à nous lorsque nous sommes sortis de l'esclavage du péché pour ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ. Et puis c'est un nouveau rythme qui nous permet de réorienter notre vie. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, qui s'agite en permanence, vous regardez des grandes villes, New York, Shanghai, Paris, c'est des villes toutes, c'est éclairé toute la journée, il y a des voitures sur toute la journée sur le périphérique parisien. À 3 heures du matin, il y a une sortie périphérique qui est bouchée, vous avez 3 km de bouchons. À 3 heures du matin, quand ils ferment une sortie pour réparation. Donc il y a toujours de l'agitation. Et donc le sabbat nous propose un nouveau rythme pour réorienter notre vie. Et puis le sabbat, c'est un jour saint. Saint, ça ne veut pas dire avec une auréole sur la tête, c'est juste mis à part. Je décide de mettre un jour, 24 heures, à part, dans ma semaine, qui est différent des autres jours. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire, mais vous avez des gens qui ont mis en application. Hein. Vous connaissez, alors en France, on est un pays laïque, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais si je me base sur les États-Unis, vous avez une société fast-food qui s'appelle Chick-fil-A, hein, Chick-fil-A qui vend des hamburgers, mais avec du poulet, des hamburgers de poulet. Chick-fil-A, ils sont fermés le dimanche, ils ne travaillent pas le dimanche. Alors tout le monde s'est moqué d'eux quand ils ont ouvert, dans les années 50, ils ont ouvert en même temps que McDonald's. Tout le monde s'est moqué d'eux. Aujourd'hui, bon, c'est une société chrétienne dirigée selon des valeurs chrétiennes, et ils ont un chiffre d'affaires qui marche très bien. Un autre exemple qui ne vient pas du monde chrétien, qui vient du monde juif. Il y a à New York un magasin qui s'appelle BH Audio Video. Hein, c'est un grand bâtiment. Ce sont des juifs qui tiennent ça. C'est une FNAC multipliée par 10. Il y a 3-4 étages. Et vous pouvez tout trouver. Enfin, vous trouvez tout ce qu'on trouve à la FNAC, plus du tas de matériel professionnel, des micros, des trucs comme ça. Eux, ils sont juifs, ils sont fermés le samedi. Et ils marchent du tonnerre. Ils ont un site internet qui marche bien. Le site internet, 8h du soir, samedi, vous ne pouvez plus rien commander. Jusqu'au samedi soir. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont mis les choses à part par la foi, d'accord, qui ne travaillent pas. Et bah, Dieu les bénit parce qu'à un moment donné, ils font selon le plan de Dieu et Dieu les bénit. Voilà. Donc la signification du jour saint mis à part, c'est vous n'êtes pas comme le reste du monde. Vous êtes le peuple de Dieu et donc vous gérez le temps différemment. Vous avez une vision différente sur le temps. Et vous êtes capable de vous arrêter 24 heures pour vous réjouir. Prendre le temps de contempler la majesté de Dieu. C'est ce qu'on fait le matin, hein, le dimanche matin, on vient, on contemple la majesté de Dieu. On met du temps à part. Le sixième point, c'est une invitation incroyable, comme un avant-goût de l'éternité. L'auteur Eugene Peterson dit que le sabbat, dans sa pratique, c'est comme un workshop. Je vais utiliser le mot français, un atelier. C'est un atelier ou un workshop pour préparer l'éternité. Il faut s'entraîner. Si demain vous êtes invité pour une semaine de ski, vous n'allez pas y aller les doigts dans les poches, les mains dans les poches. Vous allez vous dire, oula, je vais faire du ski, donc il faut que je m'échauffe un peu. Vous allez entraîner vos cuisses, vous allez vous assouplir. Hein, s'il y a quelque chose à faire, ou si on vous dit on va faire l'ascension de telle et telle montagne, il faut vous préparer physiquement. Eh bien, le sabbat, c'est un peu ça. C'est je me prépare à l'éternité. Dans l'éternité, je verrai Dieu, je vais le louer toute la journée. Il va falloir que je me repose. Je vais avoir certainement du travail, mais je ne vais pas travailler 24-24. J'aurai du temps avec Dieu. Donc pourquoi pas commencer à s'entraîner ce matin? C'est un commentateur juif qui a dit, si vous n'arrivez pas à apprécier le sabbat sur cette terre, comment serez-vous capable d'apprécier l'éternité? Je répète, si vous n'arrivez pas à apprécier le sabbat sur cette terre, comment serez-vous capable d'apprécier l'éternité? Et donc, Jésus-Christ, c'est notre vrai sabbat, c'est ce qu'on a vu. Le sabbat pointe vraiment sur Jésus-Christ. Hein. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On l'a vu tout à l'heure déjà. Hein. Et Jésus-Christ, on a bouclé la boucle ce matin, hein. Jésus-Christ ressuscité, nous invite à pratiquer le sabbat et à nous reposer, sans être paresseux, bien sûr, Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement? Je prends une période de 24 heures dans la semaine où j'arrête, je m'arrête. D'accord? Il y a quatre étapes. Hein. S'arrêter, je me repose. D'accord? Je me réjouis, je me donne du temps pour me réjouir. Je lis des livres que je ne peux pas lire dans la semaine. Je médite sur la grandeur de Dieu. Voilà, je me réjouis, je passe du temps en famille. Je fais des activités qui me plaisent. Par exemple, le samedi soir, je regarde une série à la télé parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est mon dada. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais... Et puis, contempler Dieu, c'est avoir Dieu en perspective. On a tellement de distractions. Je ne sais pas si vous êtes réseaux sociaux. Moi, j'ai abandonné tout ça. Je me suis désinscrit de plein de groupes WhatsApp parce que j'en ai marre de voir arriver des trucs à droite, à gauche. Parce que ça me coupe du temps de la contemplation de Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire aussi arrêter le téléphone portable, le mettre de côté. Mais prendre du temps, 24 heures, s'arrêter, se reposer, se réjouir, contempler, c'est vraiment pendant 24 heures. 24 heures dans la semaine. Alors, c'est un temps, ça peut paraître de la perte de temps, hein. C'est peut-être de la perte de temps, mais essayez, je vous mets au défi. Vous avez ici, très simplement, hein, vous voyez, c'est un peu comme Naaman. Quand il est venu se faire guérir de la lèpre, il pensait qu'on allait lui demander des trucs extraordinaires. Et ses conseillers très sages, syriens, non appartenant au peuple de Dieu, lui disent « Mais Naaman, si le prophète t'avait demandé de faire des choses difficiles, ne les aurais-tu pas faites ?» Et Naaman, finalement, il s'est dit « Ouais, il me demande d'aller me tremper 7 fois dans le Jourdain. » Il met en application un truc tout simple et il est guéri de la lèpre. L'invitation pour nous ce matin, c'est essayer. Ce n'est pas très compliqué, c'est s'arrêter. Je mets de côté tout ce qui me distrait, tout ce qui me fatigue, tout ce qui m'épuise. Je décide de me reposer, j'accepte de perdre de temps. J'accepte de perdre du temps, c'est la notion de rythme, de limite. J'accepte de me réjouir. Qu'est-ce qui me réjouit? Et ça, c'est dépendant de chacun de vous. Chacun est réjoui par des choses différentes. On n'a pas à observer un truc, je ne vais pas vous donner un canevas en disant « fais ci, fais ci, fais ça », parce que là, on tombe dans le légalisme. Mais ça, c'est des guides. Se réjouir et contempler, c'est avoir Dieu en perspective. S'imaginer Dieu, ce n'est pas facile, rester en silence, s'imaginer Dieu, on ne l'a jamais vu Dieu, c'est dur. Mais dans la Bible, il y a des textes qui le décrivent. Peut-être lire un psaume, comment David voit Dieu. Tout à l'heure, on a lu un passage de... C'est lui qui a lu un passage de l'Apocalypse qui donne une perspective. Hein. Dieu a dit qu'il ne fallait pas se refaire des images de représentation. Par contre, on peut, au travers de notre imagination, lire des textes de la Bible et s'imaginer comment c'est dans l'éternité et puis contempler tout ça et se réjouir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, le sabbat, est-ce que c'est une tradition juive? J'aurais envie de dire, c'est même plus que ça. C'est un patrimoine de l'humanité. C'est un patrimoine de l'humanité. Nous avons à Lyon, ça c'est pour nos visiteurs, nous avons à Lyon des lieux qui sont patrimoine de l'humanité. Le vieux Lyon est classé patrimoine de l'humanité. J'aurais envie de candidater le sabbat comme un patrimoine de l'humanité. Parce qu'il était là dès l'origine. Dieu nous a donné l'exemple, vous l'avez bien compris. Et c'est quelque chose qui est vraiment salutaire, beaucoup plus salutaire que visiter le vieux Lyon. Même si visiter le vieux Lyon, c'est très bien. Et je vous conseille d'y aller. Moi qui suis un bon Lyonnais né à la Croix-Rousse. Voilà, un avant-goût de l'éternité. Alors pour conclure, je voudrais citer Augustin. Augustin d'Hippone qui a vécu il y a très longtemps, vous le connaissez, c'est le fameux saint Augustin. J'aime pas utiliser le mot saint parce qu'on l'a canonisé et vous savez que le mot saint, c'est pas ça dans la Bible. Mais voilà ce que dit Augustin. Dieu est constamment en train de nous donner de bonnes choses comme le sabbat, mais nos mains sont trop occupées, elles sont trop pleines pour les recevoir. Donc je vide mes mains, je ferme mon téléphone portable et puis le dimanche, je prends du temps. Alors le dimanche ou un autre jour de la semaine, parce qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche, vous allez me dire, je suis infirmière ou infirmier, je travaille le dimanche. Là, je vais être excommunié par Dieu? Non. Non, on peut faire ça 24 heures du samedi. Moi, je connais un pasteur qui le fait du lundi soir au mardi soir. Il le prend dans la semaine. Il se prend du temps pour lui. Il va aller faire des bains. Il va se tremper dans l'eau chaude, des bains bouillonnants. Il se détend. Voilà. C'est sa façon de faire le sabbat. Et chacun a sa manière de le faire dans l'esprit que Dieu a voulu. Et je vous laisse sur ce dernier passage que vous connaissez très bien. Le sabbat, c'est vraiment prendre un temps pour se reposer dans de verts pâturages. Le sabbat, c'est pas de faire ce que je n'ai pas à faire, mais c'est de faire ce que Dieu attend de moi, c'est-à-dire m'arrêter, me réjouir et le contempler. Et ce travail sur le sabbat, c'est un travail à très long cours, hein. Ça fait partie d'un des cycles qu'on est en train de développer en ce moment, qui s'appelle le discipulat émotionnellement sain, d'accord, qui aide les chrétiens à travailler sur ce côté émotionnel, hein, sur les rythmes, sur les limites, sur la notion de qui je suis, qui est Dieu, pour mieux aimer. Le but de ce programme, c'est aimer comme Jésus a aimé. Pour aimer comme Jésus a aimé, eh bien, il y a tout un tas d'étapes. Hein. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais on a imaginé un certain nombre de choses. Et le sabbat en fait partie. Parce que si je ne m'arrête pas, si je suis tout le temps à fond, je suis tout le temps énervé. Donc si je suis énervé, je ne peux pas aimer comme Jésus a aimé. Et Jésus, s'il s'était pas reposé le matin avant d'aller prier, comment il aurait pu aimer tous ces gens pour les guérir? Comment il aurait pu aimer le jeune homme riche? Voilà, donc que le sabbat puisse finalement nous aider, la compréhension du sabbat puisse nous aider à rentrer dans ce repos. Et quel merveilleux jour aujourd'hui, que ce jour de la résurrection où Jésus nous a donné l'exemple, il s'est reposé le samedi, il est sorti du tombeau, d'accord, il a rencontré Marie, il a rencontré les femmes, il a rencontré les disciples, hein, il avait ses stigmates dans les mains, il a dit « la paix soit avec vous ». Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Prions. Notre Dieu, merci encore pour ce culte. Nous voulons vraiment te louer encore, Seigneur. Continuez dans cette journée. Les gens vont partir dans leur famille, vont prendre un repas en commun et se réjouir en toi. Seigneur, tu es vraiment digne de nos louanges ou de notre adoration parce que c'est toi qui a tout accompli. Tu as été ressuscité avec puissance. Tu as été élevé à la droite de Dieu, glorifié. Tu es assis maintenant dans les lieux célestes. Tu intercèdes pour chacun de nous. Tu vas continuer à le faire, Seigneur. Je voudrais te confier encore chacun de mes frères et sœurs ce matin. Vraiment te confier nos familles, Seigneur, pour que nous puissions nous reposer en toi, pour que nous puissions placer notre confiance en toi, pour que nous puissions amener tous nos fardeaux, même les plus difficiles, à toi, Seigneur, parce que tu vas en prendre soin et parce que tu es digne, Seigneur. Merci. Amen. Voilà, dernières annonces, peut-être quelqu'un a quelque chose à dire ? Non ? Ah ben je vous souhaite un... Oui ?